Étienne Bonneau de Condillac, 1755, Traité des animaux, seconde partie, Système des facultés des animaux. Chapitre 9. Système des habitudes dans tous les animaux. Comment il peut être vicieux, que l'homme a l'avantage de pouvoir corriger ses mauvaises habitudes. Tout est lié dans l'animal. Ses idées et ses facultés forment un système plus ou moins parfait. Le besoin de fuir la peine et de rechercher le plaisir veille à l'instruction de chaque sens, détermine l'ouïe, la vue, le goût et l'odorat à prendre des leçons du toucher, fait contracter à l'âme et au corps toutes les habitudes nécessaires à la conservation de l'individu, fait éclore cet instinct qui guide les bêtes et cette raison qui éclaire l'homme lorsque les habitudes ne suffisent plus à le conduire. En un mot, il donne naissance à toutes les facultés. J'ai fait voir que les suites d'idées que l'âme apprend à parcourir et les suites de mouvements que le corps apprend à répéter sont les seules causes de ces phénomènes et que les unes et les autres varient suivant la différence des passions. Chaque passion suppose donc dans l'âme une suite d'idées qui lui est propre et dans le corps une suite correspondante de mouvements. Elle commande à toutes ses suites. C'est un premier mobile qui, frappant un seul ressort, donne le mouvement à tous. Et l'action se transmet avec plus ou moins de vivacité, à proportion que la passion est plus forte, que les idées sont plus liées et que le corps obéit mieux aux ordres de l'âme. Il arrive cependant du désordre dans le système des habitudes de l'homme, mais ce n'est pas que nos actions dépendent de plusieurs principes. Elles n'en ont qu'un, et ne peuvent en avoir qu'un. C'est donc parce qu'elles ne conspirent pas toutes également à notre conservation, c'est parce qu'elles ne sont pas toutes subordonnées à une même fin, et cela a lieu lorsque nous mettons notre plaisir dans des objets contraires à notre vrai bonheur. L'unité de fin jointe à l'unité de principe est donc ce qui donne au système toute la perfection possible. Mais parce que nos habitudes se multiplient infiniment, le système devient si compliqué qu'il y a difficilement entre toutes les parties un accord parfait. Les habitudes, qui à certains égards conspirent ensemble, se nuisent à d'autres égards. Les mauvaises ne font pas tout le mal qu'on en pourrait craindre. Les bonnes ne font pas tout le bien qu'on en pourrait espérer. Elles se combattent mutuellement et c'est la source des contradictions que nous éprouvons quelquefois. Le système ne continue à se soutenir que parce que le principe est le même et que les habitudes, qui ont pour fin la conservation de l'homme, sont encore les plus fortes. Les habitudes des bêtes forment un système moins compliqué parce qu'elles sont en plus petit nombre. Elles ne supposent que peu de besoins, encore sont-ils ordinairement faciles à satisfaire. Dans chaque espèce, les intérêts se croisent donc rarement. Chaque individu tend à sa conservation d'une manière simple est toujours uniforme, et comme il a peu de combats avec les autres, il en a peu avec lui-même, car la principale source de nos contradictions intérieures, c'est la difficulté de concilier nos intérêts avec ceux de nos concitoyens. L'avantage qu'ont les bêtes à cet égard n'est qu'apparent puisqu'elles sont bornées à l'instinct par les mêmes causes qui mettent des bornes à leurs besoins. Pour reconnaître combien notre sort est préférable, il suffit de considérer avec quelle supériorité nous pouvons, nous-mêmes, régler nos pensées. Si une passion vive agit sur une suite d'idées, dont la liaison est tournée en habitude, je conviens qu'il semble alors qu'une cause supérieure agit en nous sans nous. Le corps et l'âme se conduisent par instinct, et nos pensées naissent comme des inspirations. Voilà pourquoi les philosophes n'ont cru voir que la nature dans ses phénomènes, et c'est aussi ce qui a servi de fondement aux divinités feintes que les poètes invoquent, car notre Apollon et nos muses ne sont que d'heureuses habitudes mises en jeu par de grandes passions. Mais si les passions sont faibles, si les idées sont peu liées, si nous remarquons que pour agir plus sûrement, il en faut acquérir de nouvelles, si le corps résiste à nos désirs, dans chacun de ces cas, et ce sont les plus fréquents, nous reconnaissons que c'est nous qui comparons et qui jugeons. Nous allons d'une pensée à une autre avec choix, nous agissons avec réflexion. Bien loin de sentir le poids d'une impulsion étrangère, Nous sentons que nous déterminons nous-mêmes nos mouvements, et c'est alors que la raison exerce son empire. La liaison des idées est donc pour nous une source d'avantages et d'inconvénients. Si on la détruisait entièrement, il nous serait impossible d'acquérir l'usage de nos facultés. Nous ne saurions seulement pas nous servir de nos sens. Si elle se formait avec moins de facilité et moins de force, nous ne contracterions pas autant d'habitudes différentes, et cela serait aussi contraire aux bonnes qu'aux mauvaises. Comme alors il y aurait, en nous, peu de grands vices, il y aurait aussi peu de grandes vertus, et comme nous tomberions dans moins d'erreurs, nous serions aussi moins propres à connaître la vérité. Au lieu de nous égarer en adoptant des opinions, nous nous égarerions faute d'en avoir. Nous ne serions pas sujets à ces illusions qui nous font quelquefois prendre le mal pour le bien. Nous le serions à cette ignorance qui empêche de discerner en général l'un de l'autre. Quels que soient donc les effets que produit cette liaison, il fallait qu'elle fût le ressort de tout ce qui est en nous. Il suffit que nous en puissions prévenir les abus ou y remédier. Or, notre intérêt, bien entendu, nous porte à corriger nos méchantes habitudes, à entretenir ou même fortifier les bonnes et à en acquérir de meilleures. Si nous recherchons la cause de nos égarements, nous découvrirons comment il est possible de les éviter. Les passions vicieuses supposent toujours quelques faux jugements. La fausseté de l'esprit est donc la première habitude qu'il faut travailler à détruire. Dans l'enfance, tous les hommes auraient naturellement l'esprit juste, s'ils ne jugeaient que des choses qui ont un rapport plus immédiat à leur conservation. Leurs besoins demandent d'eux des opérations si simples, les circonstances varient si peu à leur égard et se répètent si souvent, que les erreurs doivent être rares et que l'expérience ne peut manquer de les en retirer. Avec l'âge, nos besoins se multiplient, les circonstances changent davantage, se combinent de mille manières et plusieurs nous échappent souvent. Notre esprit, incapable d'observer avec ordre toute cette variété, se perd dans une multitude de considérations. Cependant, les derniers besoins que nous nous sommes faits sont moins nécessaires à notre bonheur et nous sommes aussi moins difficiles sur les moyens propres à les satisfaire. La curiosité nous invite à nous instruire de mille choses qui nous sont étrangères, et dans l'impuissance où nous sommes de porter de nous-mêmes des jugements, nous consultons nos maîtres, nous jugeons d'après eux, et notre esprit commence à devenir faux. L'âge des passions fortes arrive, c'est le temps de nos plus grands égarements. Nous conservons nos anciennes erreurs, nous en adoptons de nouvelles. On dirait que notre plus vif intérêt est d'abuser de notre raison, et c'est alors que le système de nos facultés est plus imparfait. Il y a deux sortes d'erreurs, les unes appartiennent à la pratique, les autres à la spéculation. Les premières sont plus aisées à détruire, parce que l'expérience nous apprend souvent que les moyens que nous employons pour être heureux sont précisément ceux qui éloignent notre bonheur. Ils nous livrent à de faux biens qui passent rapidement et qui ne laissent après eux que la douleur ou la honte. Alors nous revenons sur nos premiers jugements, nous révoquons en doute des maximes que nous avons reçues sans examen, nous les rejetons et nous détruisons peu à peu le principe de nos égarements. S'il y a des circonstances délicates où ce discernement soit trop difficile pour le grand nombre, la loi nous éclaire. Si la loi n'épuise pas tous les cas, il est des sages qui l'interprètent et qui, communiquant leur lumière, répandent dans la société des connaissances qui ne permettent pas à l'honnête homme de se tromper sur ses devoirs. Personne ne peut plus confondre le vice avec la vertu, et s'il est encore des vicieux qui veuillent s'excuser, leurs efforts même prouvent qu'ils se sentent coupables. Nous tenons davantage aux erreurs de spéculation parce qu'il est rare que l'expérience nous les fasse reconnaître. Leur source se cache dans nos premières habitudes. Souvent, incapables d'y remonter, nous sommes comme dans un labyrinthe dont nous battons toutes les routes. Et si nous découvrons quelquefois nos méprises, nous ne pouvons presque pas comprendre comment il nous serait possible de les éviter. Mais ces erreurs sont peu dangereuses si elles n'influent pas dans notre conduite, et si elles y influent, L'expérience peut encore les corriger. Il me semble que l'éducation pourrait prévenir la plus grande partie de nos erreurs. Si dans l'enfance nous avons peu de besoins, si l'expérience veille alors sur nous pour nous avertir de nos fausses démarches, notre esprit conserverait sa première justesse, pourvu qu'on eût soin de nous donner beaucoup de connaissances pratiques et de les proportionner toujours aux nouveaux besoins que nous avons occasion de contracter. Il faudrait craindre d'étouffer notre curiosité en n'y répondant pas, mais il ne faudrait pas aspirer à la satisfaire entièrement. Quand un enfant veut savoir des choses encore hors de sa portée, les meilleures raisons ne sont pour lui que des idées vagues, et les mauvaises, dont on ne cherche que trop souvent à le contenter, sont des préjugés dont il lui sera peut-être impossible de se défaire. Qu'il serait sage de laisser subsister une partie de sa curiosité, de ne pas lui dire tout et de ne lui rien dire que de vrai. Il est bien plus avantageux pour lui de désirer encore d'apprendre que de se croire instruit lorsqu'il ne l'est pas, ou, ce qui est plus ordinaire, lorsqu'il l'est mal. Les premiers progrès de cette éducation seraient à la vérité bien lents. On ne verrait pas de ces prodiges prématurés d'esprit qui deviennent après quelques années des prodiges de bêtises, mais on verrait une raison dégagée d'erreurs et capable par conséquent de s'élever à bien des connaissances. L'esprit de l'homme ne demande qu'à s'instruire. Quoique aride dans les commencements, il devient bientôt fécond par l'action des sens, et il s'ouvre à l'influence de tous les objets capables de susciter en lui quelque fermentation. Si la culture ne se hâte donc pas d'étouffer les mauvaises semences, il s'épuisera pour produire des plantes peu salutaires, souvent dangereuses, et qu'on n'arrachera qu'avec de grands efforts. C'est à nous à suppléer à ce que l'éducation n'a pas fait. Pour cela, il faut de bonne heure s'étudier à diminuer notre confiance. Nous y réussirons si nous nous rappelons continuellement les erreurs de pratique que notre expérience ne nous permet pas de nous cacher, si nous considérons cette multitude d'opinions qui, divisant les hommes, égare le plus grand nombre, et si nous jetons surtout les yeux sur les méprises des plus grands génies. On aura déjà fait bien du progrès quand on sera parvenu à se méfier de ses jugements, et il restera un moyen pour acquérir toute la justesse dont on peut être capable. À la seule vérité, il est long, pénible même, mais enfin c'est le seul. Il faut commencer par ne tenir aucun compte des connaissances qu'on a acquises, reprendre dans chaque genre et avec chaque ordre toutes les nouvelles qu'on doit se former, les déterminer avec précision, les avaliser avec exactitude, les comparer par toutes les faces que l'analyse y fait découvrir, ne comprendre dans ses jugements que les rapports qui résultent de ces comparaisons. En un mot, il faut, pour ainsi dire, réapprendre à toucher, à voir, à juger. Il faut construire de nouveau le système de toutes ces habitudes. Ce n'est pas qu'un esprit juste ne se permette quelquefois de hasarder des jugements sur des choses qu'il n'a pas encore assez examinées. Ces idées peuvent être fausses, mais elles peuvent aussi être vraies, elles le sont même souvent. Car il a ce discernement qui presse la vérité avant de l'avoir saisie. Ses vues, lors même qu'il se trompe, ont l'avantage d'être ingénieuses, parce qu'il est difficile qu'elles soient inexactes à tous les égards. Il est d'ailleurs le premier à reconnaître qu'elles sont hasardées, ainsi ses erreurs ne sauraient être dangereuses, souvent même elles sont utiles. Au reste, quand nous demandons qu'on tende à toute cette justesse, nous demandons beaucoup pour obtenir au moins ce qui est nécessaire. Notre principal objet, en travaillant au progrès de notre raison, doit être de prévenir ou de corriger les vices de notre âme. Ce sont des connaissances pratiques qu'il nous faut, et il importe peu que nous nous égarions sur des spéculations qui ne sauraient influer dans notre conduite. Heureusement, ces sortes de connaissances ne demandent pas une grande étendue d'esprit. Chaque homme a assez de lumière pour discerner ce qui est honnête, et s'il en est d'aveugle à cet égard, c'est qu'ils veulent bien s'aveugler. Il est vrai que cette connaissance ne suffit pas pour nous rendre meilleurs. La vivacité des passions, la grande liaison des idées auxquelles chaque passion commande, et la force des habitudes que le corps et l'âme ont contractées de concert, sont encore de grands obstacles à surmonter. Si ce principe, qui agit quelquefois sur nous aussi tyranniquement, se cachait au point qu'il ne nous fût pas possible de le découvrir, nous aurions souvent bien de la peine à lui résister, et peut-être même ne le pourrions-nous pas. Mais dès que nous le connaissons, il est à moitié vaincu. Plus l'homme démêle les ressorts des passions, plus il lui est aisé de se soustraire à leur empire. Pour corriger nos habitudes, il suffit donc de considérer comment elles s'acquièrent, comment, à mesure qu'elles se multiplient, elles se combattent, s'affaiblissent et se détruisent mutuellement. Car alors nous connaîtrons les moyens propres à faire croître les bonnes et à déraciner les mauvaises. Le moment favorable n'est pas celui où celles-ci agissent avec toute leur force, mais alors les passions tendent d'elles-mêmes à s'affaiblir. Elles vont bientôt s'éteindre dans la jouissance. À la vérité, elles renaîtront. Cependant, voilà un intervalle où le calme règne et où la raison peut commander. Qu'on réfléchisse alors sur le dégoût qui suit le crime, pour produire le repentir qui fait notre tourment, et sur le sentiment paisible et voluptueux qui accompagne toute action honnête. Qu'on se peigne vivement la considération de l'homme vertueux, la honte de l'homme vicieux. Qu'on se représente les récompenses et les châtiments qui leur sont destinés dans cette vie et dans l'autre. Si le plus léger malaise a pu faire naître nos premiers désirs et former nos premières habitudes, combien des motifs aussi puissants ne seront-ils pas propres à corriger nos vices? Voilà déjà une première atteinte portée à nos mauvaises habitudes. Un second moment favorable en pourra porter de nouvelles. Ainsi, peu à peu, ces penchants se détruiront et de meilleurs s'élèveront sur leurs ruines. À quelques moments près où les passions nous subjuguent, nous avons donc toujours dans notre raison et dans les ressorts même de nos habitudes de quoi vaincre nos défauts. En un mot, lorsque nous sommes méchants, nous avons de quoi devenir meilleurs. Si dans le système des habitudes de l'homme il y a un désordre qui n'est pas dans celui des bêtes, il y a donc aussi de quoi rétablir l'ordre. Il ne tient qu'à nous de jouir des avantages qu'il nous offre et de nous garantir des inconvénients auxquels il n'entraîne que trop souvent, et c'est par là que nous sommes infiniment supérieurs au reste des animaux.